L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes en Californie, sous le soleil couchant de San Diego. L'océan Pacifique, calme, en plein milieu d'une sieste qui pourrait paraître éternelle, est le berceau de dizaines de bateaux de la marine américaine, la plus puissante du monde. La Naval Station accueille aujourd'hui parmi ces géants d'acier arrivés en fin de vie un navire tout à fait différent des autres, le USS Stein. En effet, il vient d'être désarmé, fin de carrière, après 20 ans et 2 mois de bons et loyaux services. Howard Johnson est un homme qui a passé toute sa vie sur l'eau. En 1978, il était sur le pont du Stein, bien plus loin que San Diego, près de l'équateur. Le soleil qui se couche ce soir vient frapper la carlingue et les hublots. Howard Johnson, la main droite posée sur son vieil ami de métal, pleure. En passant ses doigts le long de la coque grisâtre, son annulaire ripe sur un trou, fin et peu profond, comme une morsure. L'échine d'Howard se raidit en un instant. Voilà l'un des derniers souvenirs de l'attaque, celle du Kraken. Nous sommes le 19 mars 1992. Il est 19h. C'est l'heure H de mon histoire. Quelques heures plus tôt, Howard était arrivé à Los Angeles avec sa femme, dans leur vieux Land Rover, au moins aussi vieux que sa carrière dans la marine. L'homme de 65 ans n'avait plus rien dans l'eau de mer. Était venu le temps de la vieillesse et de la déchéance physique. Maintenant, son arthrose, dans le bout des doigts, était devenue bien trop importante pour lui permettre de manipuler son vieillissant levier de vitesse. Alors, piloter un navire en plein milieu des flots. Le néo-retraité, pourtant, a fait son deuil. Celui de sa carrière, de sa prime jeunesse, de son premier mariage qui a planté, de sa pension qui flirte avec le niveau de la pauvreté. Mais il est vivant. Il respire le bon air de la côte Est, et ça, c'est certainement le principal. Ses quelques soucis cardiovasculaires, l'arthrose, le pacemaker, c'est accessoire comparé à la journée d'aujourd'hui. Il en a eu des visions nocturnes ces dernières semaines. Pas tout à fait comme des cauchemars, non, un peu plus réaliste que ça, comme des retours en arrière, des émotions mêlées les unes aux autres. Souvent, il raconte à sa deuxième femme, Amy, de 12 ans sa cadette, ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Contrairement à son ex-femme, elle l'écoute, mais n'en croit pas un mot. Depuis ces événements qui se sont déroulés au large de l'Équateur, Howard est devenu cryptozoologiste. Ce sont ceux qui étudient les animaux qui ne sont pas encore découverts. Howard pénètre sur le périphérique routier de San Diego dans un bruit assourdissant. De la fumée noire sort du pot de son vieux 4x4. Derrière ses Ray-Ban, il regarde dans le rétroviseur. Encore des réparations à prévoir. Amy lui balance qu'il devrait plutôt l'emmener à la casse, mais cette voiture, il l'aime du plus profond de son être. Ah oui, sa femme ne comprenait pas comment on pouvait ressentir quelque chose pour de la ferraille et du métal. Mais cette voiture fait partie, comme les navires sur lesquels il a servi, de ses compagnons d'infortune, des amis presque. Hormis sa femme, Howard est seul. Plus vraiment de copains depuis leur déménagement, plus de contact avec ses deux enfants qui ont pris le parti de son ex. La situation est devenue socialement délicate. Alors, ces quelques jours à San Diego vont permettre de joindre l'utile à l'agréable. Oh, loin de lui l'idée de prendre des vacances, non. Il voulait revoir le Stein une dernière fois. Ce vieux rafio allait bientôt rejoindre les rangs de la marine mexicaine. Mais avant ça, il fallait le désarmer. Et c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Virer les canons, ranger les munitions, le rendre inoffensif. Voilà ce que va devenir le navire sur lequel il avait servi. Une coque vidée de son âme et de sa raison d'être. Comment sa femme ne pouvait-elle pas y être sensible? Tous ses souvenirs, ses sentiments, ses peurs, Tout cela va s'envoler dans ce désarmement. Alors, comme à un vieil ami en phase terminale, le vieux Howard s'est forcé à venir lui dire au revoir. Penché sur la boîte à gants, il attrape un paquet de Camel tout fripé. Il en extirpe une cigarette sèche comme le désert et la glisse entre ses lèvres. À peine a-t-il ouvert la fenêtre que sa femme se jette sur lui et jette la cigarette par-dessus bord. « Ton cœur, chérie, mais enfin !» Le mariage, c'était vraiment la prison sous régime de liberté conditionnelle. Il râle, prend la direction du port. Au loin, ce soleil de printemps traverse la vitre de la voiture et soudain, il le voit, au milieu de tous les autres, dressé dans la torpeur de la fin de journée, le Stein. Il l'attend, son vieux pote. Les charognards sont déjà affairés autour de lui pour le dénuder. Lorsqu'il a annoncé son identité, montré son ancien passe de la marine US, les ferrailleurs et travailleurs l'ont laissé passer. Sa femme, pas plus attirée par la carlingue en vrai que lors des longs monologues de son mari, s'était éclipsée sur le port. Elle était venue chercher du sable fin, pas de vieux souvenirs. Howard, sans même un regard pour elle, absorbé par la coque du géant, ne l'avait même pas entendu partir. Donc peu importe, c'était son moment, finalement, être seul. L'espace de ces quelques heures, c'était un soulagement. Il jette quand même un coup d'œil par-dessus son épaule avant de monter sur le navire. Il ne la voit plus. Il peut donc piquer une clope à loisir à un de ces hommes qui sont là et qui portent des piles de caisses bien plus hautes qu'eux. Son cœur. Faire le grand saut à 65 ans après tout ce qu'il a vécu, eh bien c'est un risque à prendre. Le nez au-dessus de la poupe, Howard pose une main sur la carlingue. Des frissons. Instantanément. Le parcours de la tête aux pieds. Tout lui revient. L'espace d'un instant. Le voilà de retour au cœur de la tempête, à la fin de l'automne de l'année 1978, tout près des hémisphères. Les vagues géantes vont et viennent. Le Stein, seul sous les nuages et les éclairs, brave le plus terrible des éléments. Howard était là, pile au même endroit, à risquer sa vie, regardant en contrebas, subissant avec le navire le poids des vagues. Ça n'avait rien d'anormal, les tempêtes marines. C'était ce qu'il avait entendu ensuite qu'il était. Une sorte de cri venant des entrailles de la terre, une terreur indescriptible, celle d'être tombé dans un piège. Ce cri, c'était une immersion dans le Crétacé. À croire que la météorite géante responsable de l'extinction des dinosaures n'avait pas encore percé le ciel et allait s'écraser près d'eux. Howard est tiré de ses songes par un ouvrier qui lui demande de partir. Le chantier va fermer. Le soleil, déjà au loin, se couche. Il ne reste sur le pont et dans les cales que les reliques d'un temps révolu. Le pavillon aux étoiles flotte encore dans l'air de la cité californienne, mais déjà tout cela a une allure de chant du cygne. C'est la fin du Stein, du moins sous cette forme et sous ce nom-là, direction le Mexique. En redescendant sur le quai, l'ancien marin regarde son vieux compagnon une dernière fois. C'est à ce moment-là qu'il aperçut le trou dans la coque et que ses souvenirs se mêlèrent une nouvelle fois à la réalité. Sa femme n'est pas revenue le chercher. Elle doit l'attendre à la voiture, mais ses jambes, à lui, ne le portent plus. Il s'assoit sur un banc, flagellant, ne quittant pas du regard la carlingue qui plonge dans l'obscurité. Sous la lumière artificielle d'un lampadaire public, tout près de là, Howard se décide à rester un peu. Il repense au bon vieux temps, juste le temps de reprendre ses esprits, de revivre rien qu'une dernière fois les événements de cette nuit-là et ceux des jours suivants. Remonter avec précision 25 ans plus tôt n'a rien d'une sinécure et le marin, comme à chaque fois qu'il stresse, tapote nerveusement le sol de son pied droit. Encore une cigarette, encore un regard lancé au navire. Tout le ramène à cette nuit. Ses souvenirs se chevauchent, s'entremêlent avec fracas. Le revoilà au cœur d'un océan en pleine tempête. Les deux pieds bien ancrés sur l'USS Stein. Notre histoire commence plus de 20 ans avant le désarmement de l'USS Stein. Nous sommes au large des côtes du Pacifique, tout près de l'Équateur. Un soir de fin d'automne. Les flots sont déchaînés et le numéro de coque FF1065, fraîchement peint sur la coque du Stein, est mis à rude épreuve. Le ciel subitement s'est couvert il y a moins de 15 minutes. Il y a peu, Howard Johnson avait le nez dans les étoiles. Le marin, d'une petite quarantaine d'années, se gratte frénétiquement sa barbe naissante. Il a peur. Les tempêtes n'avaient jamais été sa tasse de thé. Certains autres de l'équipage, eux, agissent en toute décontraction. Pour eux, ça n'est qu'un coup de vent. Mais Howard, lui, est saisi d'un mauvais pressentiment. La manière dont le temps a tourné, c'est tout à fait inhabituel. Le tonnerre, les éclairs dans le ciel, tout s'est illuminé d'une lueur blafarde, immaculée comme la mort. Et depuis 10 minutes, le visage d'Howard, comme celui des autres, s'éclairait dans la nuit à intervalles réguliers. Appuyé contre le bastingage, Howard attrape une cigarette et un briquet, vieux comme le monde. Comme d'habitude, la petite flamme lui permet de tirer quelques bouffées. C'est un peu sa manière à lui de se rassurer dans les moments compliqués. Et puis, maintenant qu'il a divorcé de sa femme, plus personne n'est là pour lui reprocher sa manière d'agir. Le cocktail whisky-cigarette lui a été particulièrement déconseillé par son cardiologue, mais il n'en avait rien à faire. Le bras passé derrière une pièce de fer qui jouxte la cabine, les cheveux trempés et sa Marlboro déjà éteinte, Howard rumine, le biceps contracté. Quel bordel ce temps! Une vraie tannée! La lampe à huile, à côté du capitaine qui tient la barre de la frégate, manque de se renverser à chaque vague encaissée par le Stein. Quel navire! Quel navire! Howard en est tombé amoureux. Fleuron de l'US Navy depuis décembre 1970, la machine avait de quoi en faire baver plus d'un. Alors, quand il annonce dans les bars d'Amérique du Sud qu'il sert sur le Stein, c'est généralement en roulant des mécaniques. Une véritable fierté. Oh, il a pourtant déjà bien bourlingué sur les flots, le Howard. Changé plusieurs fois de bâtiment d'affectation, mais lorsqu'il a rejoint l'équipage du Stein en 1974, ça a été une sorte de révélation. Le navire était alors en affectation du côté du port de San Diego, depuis plusieurs mois. Cela n'avait rien de guerrier de stationner dans un port des États-Unis en temps de paix dans des conditions paradisiaques, mais rapidement, Howard avait pris la mesure de ce que cette bête mécanique pouvait avoir dans le ventre. Le Stein était véritablement impressionnant, mais mal arrêt. Le vent fouette son visage. Les gouttes de pluie viennent embuer ses lunettes, dont la monture avait un jour été couleur écaille de tortue. Il voudrait fumer, mais reprendre une cigarette avec ce vent, c'est mission impossible. Alors comme les autres, qu'ils soient dans leur quartier, dans les machineries ou sur le pont, il s'accroche comme un beau diable et comme il peut. Quel monstre! Les vagues n'ont aucun effet, aucune prise sur la carlingue. Plus de 130 mètres de long, un tyran de plus de 7,5 mètres, un faisceau de 14,5 mètres. La frégate est armée jusqu'aux dents. Un canon Mark 42, un lanceur de missiles, un pont d'envol et un hangar agrandi permettant à un hélicoptère d'être emmené. En bref, Poséidon peut bien aller se rhabiller. D'autant plus que la machine dispose d'un sonar à profondeur variable de modèle AN/SQS-35. C'est son bébé, Howard, ce bijou de la technologie américaine. Il est responsable de ce sonar, utilisé pour identifier tout élément qui viendrait potentiellement par le dessous du navire. Un sous-marin soviétique, par exemple. La guerre froide est loin, très loin d'être terminée. Et même si Howard est du genre à détester les républicains, ce n'est pas pour autant qu'il est un de ces gauchistes qui prônent la fin de la propriété et ce genre de conneries. Après tout, s'il gagne un salaire décent, c'est bien avec l'objectif d'en profiter. Sa maison, il l'a payée à la sueur de son front. Il faudrait que maintenant qu'elle est payée, il la partage ? Non merci. Les suppôts de Staline et de Lénine peuvent bien rester dans le froid de Russie où cela coulait douce à Cuba. Lui, il se bat pour cet American Dream qui n'est déjà plus que l'ombre de ce qu'il a été autrefois. Entre deux raclages du sol, Howard jette un coup d'œil sur sa montre. Fin de la pause. Il doit retourner bosser, rejoindre son poste, là, dans les profondeurs de la coque soumise à rude épreuve. Il entre dans la cabine de commandement. Tout le monde est tellement attentif à la tempête, son chef en premier lieu, qu'il erre comme un fantôme parmi les vivants. Le marin a les jambes qui tremblent. Il manque de glisser dans les escaliers. Howard décide de passer par les cuisines. Il y retrouve Tom, concentré sur le nettoyage de ses gamelles comme si le temps dehors était au beau fixe. Il prend le temps de lui jeter une pomme. Howard le remercie. Comme il a la nausée, il fourre le fruit au fond de sa poche avec l'idée de le manger plus tard. 5 minutes ont passé et le transpirant quadragénaire se retrouve à son poste. À ses côtés se tient son vieux collègue, l'expérimenté Pavlov. Il n'a rien de communiste, hein, le Moldave. Non, tout le contraire. Il a été habitué à en tuer après la guerre de 45. Avant d'intégrer l'US Navy, il était le chef de file d'un réseau de résistance anticommuniste. Howard lui tape sur l'épaule gauche avant de s'asseoir. Ils s'entendent bien. Ils partagent la même haine de ces frappadingues qui cherchent des noises aux États-Unis. La tempête là-haut n'a en rien faibli. Ils le savent, les gars du sonar, parce que eux, ce sont les seuls à avoir la tête au niveau de l'eau. Et Howard vous garantit que ça n'a rien d'agréable. Une tasse de café fraîchement tombée au sol remue dans tous les sens au gré des vagues et des mouvements du bateau. Juste en dessous de la tête du marin et de son collègue, il y a le sonar. Il bipe à intervalles réguliers, comme une horloge gardienne du temps. Ce bruit rassurant lui atteste que tout va bien. Pas de sous-marin, pas de torpille, pas de... Il suffit d'y penser pour que le bazar se dérègle. Voilà le sonar qui s'affole. Pavlov, sa 5e cigarette à la bouche, chipote les commandes tout en balançant des insultes dans une langue qu'Howard n'a jamais pu comprendre. Le tonnerre rebondit contre les pièces de métal du navire et eux, incrédules, tentent de comprendre ce qu'il se passe. Howard, comme la procédure l'exige, informe la cabine de commandement que le sonar déraille. Enfin, disons qu'il tente de les informer. Il ne reçoit pas de réponse. La frégate est aux prises avec les éléments extérieurs. On ne leur prête pas attention. Un sous-marin en plus de la tempête, ce serait tout de même pas de bol. Qui sait ? C'est d'ailleurs peut-être un bug en lien avec le mauvais temps. Ce sonar est le tout dernier sorti sur le marché de l'armement, une véritable merveille de technologie. Mais, comme le dit souvent son copain moldave, rien de tel que du vieux matériel en termes de fiabilité. Ah ben peut-être bien qu'il a raison finalement. Le sonar bipe de manière incontrôlée et finit par se taire, revenant à son rythme normal. Cela prouve bien que cela n'a rien d'une panne. Voilà ce qu'en déduisent rapidement les deux compères. Il y a bien quelque chose là-dessous. Quelque chose de gros. De très, très gros. Howard et Pavlov, enfin, parviennent à rejoindre la cabine de commandement. Ils ne savent toujours pas ce qu'ils se trament et le mauvais temps ne permet pas aux vigies de garder un œil sur les profondeurs de manière optimale. Sans oublier que nous sommes la nuit. Le capitaine de la frégate est donc particulièrement inquiet en perspective des événements à venir. Mais il ne peut rien faire. Il demande à Howard de noter tous les mouvements afin d'en produire un rapport. Encore de la paperasse, top. Mais le marin n'a pas le temps de se plaindre que de nouveau, les bips se font de plus en plus forts, jusqu'à devenir presque insupportables. Pavlov hurle à tout rompre. Howard tente de rattraper une situation qu'il ne maîtrise de toute manière en rien. Les bruits dans la cabine deviennent intenables et les tympans d'Howard sont prêts à exploser. Et puis un cri retentit, énorme, terrifiant. Suivi d'un crack, tout droit sorti des entrailles de la terre. Le Stein semble attiré par le fond. Cette sensation ne dure que quelques secondes à peine. Et puis le sonar, d'un coup, s'arrête. Plus un bip, rien. Non, c'est foutu. Comme s'ils avaient été attirés dans le fond de l'océan par on ne sait quoi. Pavlov et Howard se regardent, interloqués. Alarme générale, le marin n'a besoin que de quelques centièmes de seconde pour se décider. C'est le branle-bas de combat. La tempête s'est levée. Elle est partie comme elle est arrivée, en un éclair. Le Stein, lui, est mal en point. La perte du sonar, c'est un cas d'extrême urgence. Il va falloir rentrer, faire l'état des lieux d'une situation dramatique et tenter de percer le mystère. Howard, lui, n'arrive plus à dormir après ça. Il ne cesse de penser qu'ils viennent de faire une rencontre irréelle. Cette tempête, sortie de nulle part, ce cri, c'est le Kraken.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, mon heure H nous conduit au beau milieu de l'océan. L'USS Stein, fleuron de la marine US, est aux prises avec une tempête pour le moins particulière. En réalité, il semblerait bien que ce soit une bête là-dessous. Mais personne ne peut imaginer exactement ce qu'il se trame. Histoire et légende se mêlent. Depuis des siècles, les marins terrifiés racontent l'histoire du Kraken, cet animal marin terrifiant qui vient briser les bateaux et déchirer les voiles. Mais en 1978, qui y croit encore? C'est toute la question. Après l'attaque, il va falloir percer le mystère. Et cela ne s'annonce pas simple. Pas simple du tout. Nous sommes quelques jours après l'attaque, dans un port sud-américain. Déjà, l'incident est classé secret défense. Interdiction de toucher à quoi que ce soit à part les membres du Pentagone dépêchés sur place. Et un scientifique qui est venu discrètement se cacher derrière les militaires pour prendre des notes. Howard ne les avait jamais vus avant, ni les uns ni les autres. Mais cette culture du secret le conforte dans son idée que le Stein a été victime d'une créature. Enfin, il n'en est pas certain, bien entendu, mais nom de Dieu, c'est lui qui a été au plus près de l'événement. Le capitaine de la frégate, face aux militaires venus de Washington, lui refile d'ailleurs la patate chaude. Howard s'était retrouvé à discuter avec les équipes gouvernementales devant le Stein, placé pour l'occasion en cale sèche. Et les découvertes qu'ils ont faites les premiers jours des investigations, mais c'était absolument délirant. Le marin aujourd'hui est en repos. Pourtant, il a quitté sa chambre d'hôtel sitôt que le soleil n'était pas encore levé, pour se rendre sur le lieu où le Stein est entreposé. Il ne veut pas, surtout pas, louper une seule de ses journées de recherche. La zone ciblée est située à l'avant-coque du navire, près d'un dôme particulièrement massif qui abrite une partie de la technologie de l'engin, dont le sonar. Et pour parler d'un dôme, quel dôme c'était? Un peu plus de 27 tonnes. Quand Howard se vante de la qualité du navire sur lequel il sert, c'est pas pour rigoler. Pour comprendre à quel point ces découvertes ont été, disons, surprenantes, il faut avoir conscience qu'autour de cette pièce de métal faramineusement lourde se trouve une protection en caoutchouc. La technologie Nofool, utilisée comme revêtement, est à la pointe. Là encore de la technologie. Mais là, elle a été bouffée totalement. Elle est en lambeaux. De grosses déchirures à certains endroits s'étendent sur plus de 8% de la surface totale de la pièce. La puissance nécessaire pour faire de tels dégâts est colossale. Mais ce n'est pas tout. En bas de chaque zone d'attaque, la créature a laissé des dents grandes et tellement nombreuses qu'Howard et certains témoins savent qu'une attaque conjointe de gros alligators aurait pu avoir le même effet. Mais des animaux de ce genre, en plein milieu d'un océan déchaîné, laissaient Howard rire. c'est autre chose. Quelque chose de seul et de beaucoup plus gros. Les scientifiques, rapidement, évoquent un animal qui mesurerait plus de 40 mètres de long, la taille des plus grands dinosaures marins, ou celle de quelque chose de bien pire. Howard, totalement sur les nerfs, commence à évoquer avec les scientifiques et les gens du Pentagone sa théorie sur le Kraken. Depuis le retour du navire à terre, il a consulté énormément de livres et de documents sur le sujet. Il est certain de son coup. La bête qui a attaqué le Stein est un animal mythologique. Le même qui le terrifiait, gamin, lorsque son paternel lui racontait des histoires à son sujet. À l'époque, le jeune Howard avait la couette remontée jusqu'aux oreilles, comme pour se protéger. L'âge adulte ne sauve pourtant pas toujours des terreurs d'enfants. Et même si les pontes venues de la capitale américaine lui rigolent au nez, le marin, lui, est très sérieux. Il a ses arguments et il est certain de son coup. Le Kraken n'a pourtant rien d'une créature issue des océans d'Amérique. Bien au contraire, il terrorise plutôt les équipages naviguant dans les eaux scandinaves. De nombreux témoignages au travers des âges rapportent des attaques de ce genre. Une bestiole tentaculaire, totalement immense, qui fait chavirer des navires en les saisissant par leur coque. Les équipages tombés à l'eau se noient alors et, parfois même, se retrouvent dévorés par l'immonde monstre issu de la mythologie. Depuis toujours, écrivains, poètes, peintres, scénaristes et artistes en tout genre se partagent entre fascination et terreur pour ces histoires de vieux loups de mer racontées au coin des comptoirs. Mais plus perturbant encore, certains bateaux qui ne reviennent pas sont parfois retrouvés en morceaux, de manière totalement inexplicable. Ainsi est née la légende du Kraken, véritable monstre des mers à l'origine inconnue. Mais si, en réalité, la terreur des mers n'était pas la seule? Ou ne serait-il d'ailleurs même pas un monstre? Si le Kraken, en réalité, n'était qu'un animal de grande taille, vous me voyez venir? Après tout, certaines espèces de calamars sont plus grandes que d'autres, non? S'ils vivent en profondeur, certains ont déjà été aperçus en surface. Mais cette théorie est-elle crédible dans le cas du Stein? Rien n'est moins sûr. En effet, les indices retrouvés ne laissent rien présager de bon. Si une créature comme celle-là existe dans les flots des océans d'Amérique du Sud, la population civile est-elle en danger de mort? Est-ce impossible de croire qu'Howard et certains des témoins qui pensent comme lui peuvent avoir raison au sujet de ce Kraken remonté des profondeurs? À ce stade, toutes les théories sont ouvertes. Quand on a des déchirures de 4 pieds de long dans une coque de 27 tonnes, il paraît un peu cavalier de fermer la porte aux théories, même les plus fumeuses, vous ne croyez pas? En tous les cas, l'enquête lancée par le Pentagone, elle, va suivre son cours à ce sujet et apporter des réponses avec une précision qui risque d'en déranger plus d'un. Howard, lui, ne se remettra jamais vraiment de cette rencontre dans cette nuit de tempête et des premières conclusions auxquelles il a assisté. Sa vie durant, le marin continuera de croire qu'il a croisé le Kraken au large de l'Équateur et rien ni personne n'arrivera jamais à le faire changer d'avis. Le poids des expériences est parfois plus lourd que celui des évidences.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H se penche sur l'histoire d'une attaque maritime récente aussi mystérieuse que perturbante. Comment imaginer que le Kraken ou une quelconque créature mythologique ait pu s'attaquer à l'US Navy en mission au large de l'Équateur? Personne. Personne ne prend cela très au sérieux. Mais pourtant, tout porte à croire, témoignages et indices, que c'est bien un animal venu des profondeurs qui se serait attaqué à la coque du Stein. Et lequel? Comment? Pourquoi? Les réponses se mêlent et les solutions se font manquantes. Aujourd'hui encore, une part de mystère bien présente est restée au fond des profondeurs. Nous sommes à la toute fin de l'année 1978. Le Stein a été attaqué depuis quelques mois. Les indices ont été relevés. Pour rien. Les spéculations nombreuses circulent. Et un homme aujourd'hui est en route pour le Pentagone. C. Scott Johnson est un biophysicien de l'US Navy. Coupe réglementaire en vigueur, cheveux rasés à blanc au-dessus des oreilles et coiffés en brosse au-dessus, le scientifique n'a rien d'un professeur tournesol. Balèze, des bras larges comme des camions, la manette qu'il tient sous son bras gauche semble être légère comme une plume. Sa musculature est impressionnante et, au-dessus de son poignet droit, à moitié caché par ses manches d'uniforme, un tatouage. La marque des Marines. Aujourd'hui, il est attendu par une commission d'enquête officieuse qui travaille sur l'attaque de l'USS Stein. Johnson non plus n'en a pas été témoin. Pas même de loin. Il était bien au chaud ici, à Washington, à cette époque. Mais cela n'empêche pas qu'il a été mandaté pour percer le mystère. Il n'est pas idiot. Il sait bien que son obligation de respecter les petits secrets de l'armée des États-Unis a pesé sur la décision. Des scientifiques d'une toute autre trempe travaillant dans le civil. Dès lors, les risques de fuite étaient, disons, trop importants. Instinctivement, comme robotisé, Johnson chausse ses lunettes rondes dorées sur son nez. Il regarde sa montre. Il est en avance. C'est une habitude. Dans sa mallette, ses conclusions, tapées à la machine, accompagnées de photos et de la retranscription de nombreux témoignages. Tout est prêt pour la publication d'une étude. L'armée l'a autorisé à le faire, en édulcorant certains passages, bien entendu. L'opinion, au courant de l'affaire, est sur les dents. Cherche des réponses. Vous imaginez, vous, avoir la possibilité de prouver que le Kraken, cette créature mythique qui terrorise le sommeil des marins, existe ? Et que la bête serait assez forte pour attaquer les navires modernes ? De quoi mettre le feu aux poudres, assurément. Tout ce que le gouvernement voulait éviter. Encore quelques minutes, et il va entrer. Au dehors, les gouttes de pluie commencent à tomber. Il fait un froid de canard dans la capitale du pays le plus puissant du monde. Tant pis, Johnson va s'annoncer avec 5 minutes d'avance. Il est très vite conduit dans un bureau feutré. On lui propose un café. Il refuse poliment. Le scientifique passe un doigt entre son cou et sa chemise, comme pour mieux respirer. La transpiration qui augmente, les battements de cœur dans les tempes, il sort nerveusement les documents qu'il étale sur la table de fer. Tout de même, 4 colonels. Et effectivement, Johnson a de quoi transpirer. Les hommes en face de lui n'ont rien de 3e classe. Bardés de médailles, des lunettes sombres pour 2 d'entre eux, des épaulettes qui témoignent de toute l'étendue de leur carrière. Il l'écoute attentivement, sans un mot prononcé. Rien. Ils attendent juste les démonstrations du scientifique. Elles sont explosives, ces conclusions. Et Johnson le sait. L'hypothèse du Kraken, bien entendu, il l'écarte tout de suite. Il ne laisse même pas l'ombre d'un doute planer. En revanche, il ne peut écarter le fait que cette attaque ait bien eu lieu. Les preuves sont là. Alors, il a effectué ses recherches, exploité les failles. Et il a pu arriver à une conclusion principale qu'il juge définitive. C'est un calamar géant qui s'en est pris au Stein. L'un des colonels, à l'annonce de ces mots, hausse les sourcils et enlève ses lunettes. Les calamars géants, bien que très grands, peuvent s'attaquer à des navires, ça se saurait. Le militaire regarde ses collègues d'un air amusé. Ce Johnson, il se fout de leur gueule. Mais imperturbable, le scientifique déroule ses calculs, ses argumentations. Pour lui, cette sous-espèce est inconnue de la discipline. Elle n'a pas été découverte. Des sont peut-être même des dinosaures eux-mêmes. L'un de ses supérieurs, un peu plus accroché que les autres, lui demande s'il a une idée de la taille de l'animal. Ah oui, d'après les traces, il en a une. Johnson reprend son souffle. Son cœur bat à tout rompre. Sa gorge est sèche. Il a peur, tressaille, vacille même, doit s'éclaircir la gorge avant de pouvoir parler. Eh bien, plus de 180 pieds, mon colonel. 180 pieds ? Oui, oui, mon colonel. 55 mètres. Si Scott Johnson est l'un des premiers à se pencher sur cette affaire avec sérieux. Effectivement, les plus dubitatifs ont eu certainement à remettre en cause les conclusions du scientifique. Ces résultats sont très douteux. C'est surtout la taille colossale du calamar qui est discutée, pas l'espèce de l'animal. Bien entendu, pas de kraken pour attaquer le navire, vous vous en doutez. Un calamar, certes. Mais quelle sous-espèce ? C'est toute la question. Certains parlent d'une variété colossale des eaux australes. Ceux-ci, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, peuvent aisément mesurer une trentaine de mètres. Déjà de quoi être assez impressionnant, n'est-ce pas ? Mais tout le problème, c'est leur provenance, justement. Comment un calamar des eaux australes a-t-il pu se retrouver près de l'équateur ? C'est particulièrement improbable, voire tout bonnement impossible. Exit donc la piste du tentaculeux venu d'Australie. Oui, mais alors, qui est ce monstre ? La réponse n'est pas arrêtée de manière officielle. Les spécialistes s'écharpent les uns les autres, mais je vais me permettre de vous donner mon avis en la matière. La plupart des études les plus sérieuses rejoignent l'hypothèse que le plus à même de s'attaquer à une proie de la taille d'un des fleurons de la Navy serait un calamar crochu. Accrochez-vous bien, scientifiquement, on appelle ça un onychoteutidé. Quesaco ? Un animal géant, deux rangées de crochets bien implantés et parfois aussi grands qu'un pouce humain. Ces crochets, très nombreux, sont bien implantés sur deux énormes massues tentaculaires. Cette hypothèse, particulièrement plausible, vise une sous-espèce vivant dans l'est de l'océan Pacifique. Seuls les crochets retrouvés permettent de proposer une estimation en termes de taille de l'animal. Ceux retrouvés dans la carcasse du navire mesurent près d'1,50 cm. Cela peut vous paraître peu, mais ce sont les plus grands jamais retrouvés pour une espèce du genre. Difficile donc d'aller estimer la taille globale de l'animal, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le Stein a dû avoir la trouille ce soir-là. Son équipage aussi. Fort heureusement, ce mystère est l'un de ceux qui n'a rien coûté en termes de vie humaine. Mais là où il est particulièrement séduisant, c'est qu'il nous est contemporain. Et qu'il nous permet ensemble de croire que les monstres des profondeurs, ceux des légendes et des contes, peuvent peut-être exister. Après tout, les profondeurs et les abysses nous sont encore inconnus à grande échelle. Qui sait ce qui peut s'y cacher ? Des calamars plus géants que géants ? Des monstres ? Des dinosaures marins qui auraient survécu et qui se cachent là dans le noir de nos océans et de nos esprits ? Ou pire, le kraken écumant les océans à la recherche d'équipages un peu trop confiants. Rien n'est impossible. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec un passage de roman portant sur ce monstre bien connu des marins et des légendes. Il est issu de l'ouvrage « Monster Mix » de l'auteur William Utterson et évoque avec poésie les créatures des profondeurs. Les hommes peuvent naviguer sur les mers toute leur vie, rarement, voire jamais, entrer en contact avec les monstres cauchemardesques qui habitent les grottes et les falaises du fond de l'océan. Regardant l'eau légèrement boueuse, les hommes de la licorne virent une masse se tortillant de tentacules entrelacés ressemblant à d'énormes serpents, immensément épais et longs et se rétrécissant à leur extrémité libre jusqu'à la taille d'un pouce d'homme. C'était un spectacle immonde, une croissance obscène des endroits sombres du monde où la faim incessante est la force motrice. À un endroit, près du renflement de la coque, apparut un visage de gorgone fixe, avec de grands yeux sans paupières et un énorme bec de perroquet qui bougeait légèrement, s'ouvrant et se fermant comme s'il venait de croquer et d'avaler un repas de chair chaude. Voilà donc pour cet extrait et ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.